Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, il nous est donné ce magnifique évangile plein d'espérance de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Souvenez-vous que Jésus ne veut pas au début que soit proclamé de manière trop rapide le fait qu'il est le Messie. Parce que pour le peuple juif, cette révélation est toute particulière et elle nous intéresse bien sûr, pour nous, tous les autres peuples. C'est que le Sauveur est venu. Il est pendant 30 années dans l'humilité de Nazareth, mais il devait bien se manifester, ce Sauveur. Et il se manifeste par son enseignement tout d'abord et par la bonté et la finesse de son enseignement en nous demandant d'aller au-delà de l'apparence et de sincèrement et profondément vivre notre prière, parler à Dieu face à face, de ne pas trop le craindre et de se confier en lui en l'appelant notre Père. Il nous demande également d'être vrai vis-à-vis de notre prochain et d'écouter la voix de notre conscience, éclairée par l'Esprit Saint. Voilà la vraie religion, la religion qui fait tomber tous les interdits alimentaires. Et si il vous est demandé de vous souvenir du vendredi en évitant de manger de la viande, maintenant, dans le droit canonique, dans les vendredis de l'année, il vous est demandé de faire un acte de mortification, de pénitence chaque vendredi, si possible en vous abstenant de viande. Mais parfois le poisson est plus cher que la viande. Alors, si vous êtes fumeur, s'il en reste parmi vous qui fume encore, vous pouvez ne plus fumer un vendredi. Les vendredis de carême, il nous est demandé explicitement de faire abstinence et de ne pas manger de viande. Et le vendredi saint, il nous est demandé explicitement de jeûner. Mais toutes ces règles sont pour notre vie spirituelle. Si vous avez de la viande qui pourrait être jetée, même un vendredi de carême, vous devez la manger. Et si vous êtes très malade, eh bien, même un mercredi des cendres, un vendredi saint, vous pourriez manger. Donc, c'est en esprit que Jésus nous donne l'épanouissement total de la religion, de la vraie religion. Mais voici qu'il va faire des miracles publics, après avoir fait des miracles où il demandait, souvenez-vous, de ne pas les ébruiter. Il rend la vue à un aveugle et lui dit « n'en parle pas ». Il guérit des lépreux et il leur dit « n'en parlez pas, allez voir les prêtres, faites constater que vous êtes guéris ». Mais aujourd'hui, Jésus fait un miracle et un miracle extraordinaire. Il ressuscite un mort devant tout le monde. Déjà, il y a une foule qui le suit, mais en plus, la ville de Naïm s'est déplacée pour cette femme, pour le drame de cette veuve qui a perdu son fils unique. Nombreuse est la foule de cette ville même. Donc lorsque Jésus fait arrêter la civière, eh bien, il y a des milliers de personnes qui sont présentes. On peut les estimer au moins à 2000 personnes, minimum. Et voilà qu'il va ressusciter ce jeune homme. Il avait ressuscité une jeune fille, mais qui était morte depuis seulement une heure, deux heures. Oh, pour tous ceux qui sont proches de ceux qui décèdent, à moins qu'un médecin parfois aille un peu trop vite, ou que le pouls soit extrêmement lent, ou la respiration très lente, on voit bien quand quelqu'un est mort. Il y a des relâchements tout particuliers qui se font, et la température baisse très vite. Alors si on met en doute la mort de la jeune fille, ce jeune homme, lui, a les yeux cavés, il est blanc, il est vraiment mort depuis la veille. On pourra encore discuter, alors Jésus va ressusciter Lazare, qui lui a commencé sa décomposition. Il en est au quatrième jour. Et l'odeur de la décomposition, qui est toute particulière, passe à travers la pierre rugueuse de son tombeau creusé dans le roc. Ainsi donc, Jésus, en ressuscitant ce jeune homme, montre qu'il est tout puissant ou qu'il a une puissance particulière, puisque la foule dit qu'il est un prophète, qu'il est envoyé par Dieu. Et en effet, lorsque, à notre prière, un homme, une femme, un enfant, un prêtre, un évêque demande à Dieu la résurrection d'un mort et qu'il l'obtient, alors, ou c'est faux, mais c'est démoniaque. Et alors, le démon essaye de donner une apparence vivante à un corps qui n'est pas encore décomposé. Mais il ne peut pas reconstituer un corps. C'est le privilège du Créateur de créer la matière, créer des cellules, restaurer des cellules. Et donc, il n'y a bien que Dieu qui puisse ressusciter un mort. Tous les escrocs ont bien voulu essayer, mais de nos jours, avec toutes les images, tous les films, il faudrait tromper beaucoup et faire beaucoup d'effets spéciaux pour démontrer qu'on ressuscite un mort devant tout le monde. Et voilà qu'en 2019, il nous est présenté à nouveau cette résurrection. La plus grande résurrection, c'est non pas la prière d'un saint auprès de nous, mais c'est de se ressusciter soi-même. Or, comprenez-le bien, Jésus s'est ressuscité, car l'acte divin de la résurrection est l'œuvre de la Sainte Trinité. Le Père ressuscite la nature humaine de Jésus en ramenant l'âme dans le corps de Jésus. L'Esprit Saint le fait aussi, il est Dieu, il est l'amour éternel du Père et du Fils. Mais le Fils aussi ressuscite, car il n'y a qu'un seul Dieu, avec une relation de père à fils dans un amour éternel. C'est donc Jésus qui ressuscite, se ressuscite lui-même. Voilà une des causes de notre foi et de la religion. Dieu est créateur, mais Dieu s'est fait homme, et c'est une preuve d'amour incommensurable. Et pour prouver qu'il était vraiment Dieu, il est ressuscité et lui-même. Ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même. C'est plus qu'un prophète. Alors, voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes là un dimanche. C'est le jour anniversaire de sa résurrection. Le vendredi, nous pouvons faire pénitence. C'est le jour anniversaire de sa mort pour nous, innocents, agneaux de Dieu sur la croix. Mais le dimanche, nous ne pouvons pas jeûner, nous pouvons manger tout ce que nous voulons, même dans les dimanches de carême, parce que le Christ est ressuscité. Alors, cette foi, comme on vous l'a dit à de nombreuses occasions, elle implique une morale. Et saint Paul aujourd'hui nous dit bien qu'il faut prendre garde et de ne pas pécher, et même avec délicatesse et bonté, signaler à celui qui pêche qu'il fait le mal. De nos jours, on a tellement étendu la phrase « je ne peux pas juger » qu'on en a fini par ne plus penser ou ne plus constater le mal. Nous-mêmes, en conscience, nous savons quand nous mentons, nous savons lorsque nous sommes méprisants, nous savons lorsque nous blessons les autres par nos paroles ou par nos écrits. Si nous ne sommes pas totalement endormis, il y a une pointe de la conscience. Nous savons et nous ne sommes pas fiers de nos péchés de sensualité. Nous savons et nous ne sommes pas fiers de nos caprices et de notre égoïsme. Nous savons bien que lorsque nous exagérons en refusant notre pardon. Tout cela, voyez-vous, saint Paul nous le dit, Et il nous avertit, on ne se moque pas de Dieu. Car les pères de l'Église nous disent bien que ce jeune homme qui est mort, c'est le signe du péché. Ce jeune homme est victime de la maladie et de la mort, mais il symbolise la mort de l'âme. Et Jésus, en ressuscitant ce jeune homme, il réalise la vie de l'âme, le pardon, celui dont nous sommes certains en confession. Parce que nous avons pris à témoin un serviteur de Dieu, qu'il soit jeune, moins jeune, vieux, gentil, pas gentil, de bonne humeur, de mauvaise humeur, celui qui confesse prend la place du Christ, écoute raisonnablement et par la grâce surnaturelle estime et juge l'état de regret de celui qui parle et lui donne l'absolution. Voilà ce qui est miraculeux et voilà ce qui est l'évangile d'aujourd'hui. Et ce corps vivant ressuscité, eh bien nous le recevons à la Sainte Eucharistie. C'est la raison pour laquelle nous devons nous-mêmes être vivants. Nous devons veiller à nous confesser au moins une fois par an pour faire une sainte communion à Pâques. Et puis nous confesser, si possible, et par zèle, puisque l'Église nous demande de nous confesser au moins une fois par an et de communier au moins une fois par an. Eh bien, de nous confesser, par exemple, eh bien, pour le premier dimanche de l'Avent, pour Noël, pour le début du carême, pour Pâques, environ tous les 2 mois. Tout cela pour être en éveil et pour faire un examen de conscience. Car nous en avons bien besoin et la France en a bien besoin. Il vous a été distribué une petite prière toute simple qu'on attribue à saint Ignace de Loyola. Âme du Christ, sanctifiez-moi. Corps du Christ, sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de venir à vous, pour qu'avec les saints, je vous loue dans les siècles des siècles. Cette prière, nous pouvons l'ajouter à notre chapelet quotidien. Le mois d'octobre arrive, le mois du rosaire. Nous devons prier le chapelet, nous n'avons plus le choix. La Vierge Marie l'a demandé souvent, non pas qu'elle veuille être honorée, mais elle veut pouvoir présenter à son Fils la foi en l'incarnation, la foi en la bonté maternelle d'une femme qui a été la mère de Jésus, et qui est la mère de Jésus, bien sûr, et qu'elle puisse peser sur le cœur de son Fils dans le sens de sa bonté et de sa miséricorde, puisqu'il ressuscite cet enfant, ce jeune homme, en voyant tout le monde pleurer et sa mère pleurer. Cette mère, les pères de l'Église nous disent aussi que c'est l'Église, la maman de ce jeune homme dans la ville de Naïm. C'est l'Église qui pleure ses enfants, qui meurt à cause du péché. Et Jésus, l'agneau de Dieu, donne sa vie et ressuscite cet enfant. L'Église, elle donnera toujours la vie. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'Église et contre son enseignement de siècle en siècle. Comme nous le dit saint Paul, celui qui est catéchisé, celui qui a la bonne nouvelle, eh bien, il doit instruire les autres. Toute la succession des papes nous ont donné cette instruction. Et il ne faut pas craindre, cet enseignement est infaillible. Quand un pape parle lors d'une interview ou dans un texte ordinaire, il donne son opinion. Bien sûr, nous avons à le respecter, mais c'est le catéchisme universel, le magistère ordinaire universel qui doit être notre foi, non pas les opinions de tel ou tel pape. C'est très important, car les papes eux-mêmes l'ont rappelé. Lors du Concile Vatican Ier, nous ont été données les quatre conditions de l'enseignement infaillible de la foi catholique. Enseignement solennel par l'organe supérieur de l'Église, comme le pape, qui, en tant que successeur de Pierre, oblige, en matière de foi ou de mœurs, de morale, à croire définitivement l'ensemble des fidèles une vérité, alors nous devons considérer que c'est l'Esprit Saint qui nous éclaire. Dans le synode sur l'Amazonie et l'écologie intégrale qui vient, nous devons prier pour que l'Esprit Saint puisse inspirer ces 250 évêques et le pape dans un texte ordinaire, l'exhortation apostolique post-synodale, pour qu'il puisse être bien fidèle à cet enseignement. D'autant plus que nous serons peut-être troublés si l'on abandonne le célibat sacerdotal. Ce n'est pas de foi, c'est un conseil évangélique qui s'est étendu des religieux, des moines et des moniales aux prêtres diocésains. Il y a les prêtres religieux qui ont les trois vœux, la chasteté, donc le célibat, la pauvreté et l'obéissance. Les prêtres diocésains, eux, ont une obéissance polie vis-à-vis de leur évêque, ils ont un esprit de pauvreté parfois relatif, mais ils doivent être célibataires pour ressembler au Christ, mais c'est une loi positive de l'Église. En Orient, cette loi n'existe pas qu'à partir du diaconat. Et si je vous en parle, j'ose à peine vous en parler pour ne pas vous troubler, puisque c'est un marqueur très fort de la piété des prêtres d'être totalement donné au Christ. Le mariage est saint, mais vous avez des prêtres orientaux catholiques et orthodoxes qui sont des hommes mariés tout à fait bons. Mais voyez-vous, ce n'est pas une solution pour la crise spirituelle qui est la nôtre. Et enfin, pour terminer, le 6 octobre prochain, dans des convulsions sociales et même ecclésiales, où la conférence des évêques de France nous demande et puis nous incite ou nous dit tout simplement que nous pourrions exprimer ou qu'il est possible d'exprimer le fait que nous soyons attachés à ce qu'un enfant a une père, un père et une mère. Mais tout cela, doit-on le manifester politiquement? Est-ce que des prêtres doivent vous dire d'aller marcher au milieu des gaz lacrymogènes qu'on nous promet depuis hier pour le 6 octobre? Est-ce que je dois vous dire d'y aller avec vos enfants? Est-ce que je dois dire à des personnes âgées qui pourraient suffoquer à cause des gaz lacrymogènes de mourir pour cette cause? Eh bien, je suis comme la conférence épiscopale, je ne sais plus quoi dire. Eh bien, si, manifestez votre indignation, manifestez votre charité aussi pour tous ceux qui pensent, elles ou ils, qu'ils peuvent priver de manière contractuelle et financière un enfant d'un père et d'une mère. Alors je vous demanderai d'être bien attentif et de reprendre votre chapelet. Si vous ne l'avez jamais prié, vous avez dit une dizaine comme ça de temps en temps, chaque jour ou dans la semaine, eh bien il va falloir que vous preniez le chapelet, comme nos ancêtres, comme nos grands-mères, nos grands-pères aussi. Il va falloir prier le chapelet. Et là, ce n'est qu'un conseil, et non pas évangélique, mais paroissial. Entre le Notre Père et le Je vous salue Marie, ajoutez âme du Christ pour que vous puissiez peut-être un jour la connaître par cœur et parler à Jésus, non pas seulement avec vos propres mots, mais avec une prière toute faite pour vous conduire et vous aider dans votre foi, votre espérance et votre charité Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.